Une semaine d'actualité. Ludovic Duneau.
Bonjour à tous, il s'en est passé des choses dans l'actualité ces 7 derniers jours. Ce regard dans le rétroviseur va nous mener aux États-Unis, au Niger, en Biélorussie, au Liban, au Sénégal entre autres. Et comme chaque semaine, un invité est avec nous pour porter son regard sur cette actualité. Aujourd'hui, c'est Paul Dahan. Il est ancien diplomate et il vient de diriger aux éditions du CNRS un livre qui a pour titre « Prévoir le monde de demain ». Bonjour Paul Dahan.
Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs des quatre coins de la planète.
Alors depuis quelques mois avec la pandémie de la Covid-19, on ne cesse de parler, d'imaginer ou de craindre le monde de demain. Va-t-il être différent? Chacun y va de ses présages, de ses recommandations ou de ses injonctions. Mais prévoir le futur, c'est une discipline aussi, une discipline utile, voire indispensable à tous les décideurs, qu'ils soient économiques, militaires, politiques. Réflexions et mises en perspective de la prévision, c'est l'objet du livre que vous avez dirigé. Alors, Paul Dahan, pourquoi est-ce que cela semble si important aux hommes de prévoir le monde de demain? Cette discipline de la prévision qui s'est institutionnalisée ces dernières décennies, à quoi sert-elle?
Tout d'abord, un retour sur le passé. La prévision est aussi vieille que l'homme. L'homme a cherché à savoir ce qu'il allait lui advenir le lendemain, à lui-même, au groupe auquel il appartenait, et au-delà du groupe, à l'État. Et cet élément est un élément important dans la mesure où celui qui a une longueur d'avance sur l'autre en permettant d'anticiper ce qui va se passer demain et à s'y préparer est fondamental.
C'est le fameux adage « gouverner, c'est prévoir ».
C'est exactement cela et qui a tendance peut-être aujourd'hui à être un petit peu perdu de vue et qui devient souvent gouverner, c'est subir.
Pourquoi vous dites ça? Parce que au contraire, vous expliquez avec les autres auteurs pendant plusieurs centaines de pages que la prévision est très importante, qu'il y a des outils. Comme je l'ai dit, elle s'est institutionnalisée, c'est devenu quelque chose d'officiel et de nécessaire à tous les décideurs. Donc vous pensez qu'ils subissent malgré tous ces efforts de prévision?
Alors, la question est plus complexe que cela. La première des choses, c'est que bien évidemment, tous les décideurs sont attachés à avoir des outils de prévision. Ça, c'est le principe. Mais il y a la pratique et nous nous trouvons face à un paradoxe. Plus le monde est imprévisible, plus nous avons besoin de prévision. Et deuxième paradoxe, plus le monde est imprévisible, et plus nos décideurs ne parviennent pas à trouver un juste équilibre entre le temps court de l'action et le temps long de l'anticipation. Et c'est cet équilibre qu'il semble difficile à trouver aujourd'hui, comme l'ont prouvé les trois grandes crises que nous avons connues, 2008 la crise financière, 2015 la crise migratoire et 2020 la crise sanitaire. Donc si l'on compare la théorie et la pratique, il semble qu'il y ait une difficulté des décideurs à utiliser au mieux les instruments de prévision dont ils disposent et d'en tirer les conséquences qu'ils s'imposent. La crise de la pandémie a montré quand même qu'il y avait un manque d'anticipation qui s'est traduit par un défaut de préparation. C'est un constat objectif que nul ne peut nier.
Et mais pourquoi finalement il y a ce hiatus entre la prévision et l'action et la décision politique? C'est parce que même si la prévision est là pour diminuer toutes les incertitudes, il reste ces fameuses incertitudes, ce n'est pas une science exacte, et que finalement ils n'osent pas prendre une décision?
Le problème, c'est que les décideurs sont confrontés à une kyrielle de problèmes et il leur est difficile d'établir des priorités entre ce que sont les priorités du court terme et les priorités du long terme. Le court terme l'emporte toujours sur le long terme et c'est de cette différence que viennent les problèmes de défaut d'anticipation. Et en plus de cela, les échéances courtes de la vie démocratique s'accommode mal du temps long de la prévision. C'est un fait que l'on ne peut nier.
Paul Dahan, je vous propose de parcourir l'actualité de la semaine écoulée et en revenant d'abord ensemble sur les assassinats perpétrés au Niger. Dimanche dernier, 8 personnes, dont 6 Français et 2 Nigériens, sont assassinées dans la réserve naturelle de Kouré, au sud-est de Niamey, alors qu'ils sont en train de découvrir les girafes qui font la réputation du site. 7 personnes, hommes et femmes, étaient employées par l'ONG française Acted, la 8e victime, et le président de l'association des guides de girafes de Kouré. Tidjani Ibrahim Katiela, le gouverneur de Tillaberi, la région où s'est déroulé le drame, témoignait au micro de Charlotte Cosset.
C'est un choc, madame. C'est un grand choc que nous avons. Nous avons vraiment, ces derniers temps, une accalmie relative sur l'échelle de la région et brusquement, cette barbarie vient de se passer. C'est vraiment un choc.
Vous ne pensiez pas qu'un tel événement puisse arriver comme ça
Non, pas du tout. Pas du tout.
Il n'y avait pas eu d'alerte
Non, pas du tout. C'est une zone touristique, hein. Tout le monde part là-bas.
Cette zone abrite les girafes, les derniers girafes d'Afrique de l'Ouest.
On a ouvert une enquête et on a commencé le ratissage de la zone. Nous sommes en train de voir comment l'événement s'est passé. On est en train de chercher toutes les informations.
Mercredi, la France a placé le Niger intégralement en zone rouge, c'est-à-dire qu'elle y déconseille formellement les déplacements. Seule la capitale Niamey passe en zone orange. Les voyages y sont là déconseillés, sauf pour raisons impératives. Et hier, les dépouilles des 6 Français sont arrivées à l'aéroport d'Orly, où le Premier ministre Jean Castex a présidé une cérémonie d'hommage. Au Niger avait lieu l'enterrement d'Abdou Kadri, le président de l'association des guides de girafes de Kouré, la correspondance à Niamey de Sidi Yansané.
Une cérémonie sobre et discrète dans son village de Kouré, en présence du maire de la commune et du chef de canton, selon nos informations. Celui qui présidait l'association des guides des girafes de Kouré devait rejoindre sa dernière demeure plus tôt dans la semaine, mais cela a été reporté pour les besoins de l'enquête. Pas d'hommage national donc, mais les ministres nigériens du tourisme et de l'environnement ont tenu à faire le déplacement à Kouré il y a quelques jours pour présenter les condoléances à la famille d'Abdou Kadri et rencontrer ses collègues guides du parc. Pour les mêmes raisons, l'enterrement du chauffeur Garba Soulé, prévu dès le lendemain de son assassinat, a aussi été retardé, ce qui n'a pas empêché les habitants de son village de Goudel de présenter leur respect à ses proches en début de semaine.
Paul Dahan, vous qui êtes ancien diplomate et qui continuez à regarder avec attention l'actualité, que vous inspire ce terrible événement nigérien ?
Je crois que face à de tels événements dramatiques, il y a toujours deux temps. Le premier temps est celui de l'émotion. Comment ne pourrait-on pas être ému par un assassinat aussi sauvage qui démontre une certaine forme d'ensauvagement du monde, pour employer un mot actuel. Ce temps de l'émotion et du recueillement est important. Mais pour le diplomate, pour le prévisionniste, il y a un second temps qui est aussi important, c'est le temps du questionnement. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Est-ce que cette situation était totalement imprévisible ou était-elle dans le domaine du possible ? Et c'est là que se pose la question de l'importance de la prévision. Ce qui s'est passé au Niger doit être replacé dans un contexte spatio-temporel plus général pour essayer de comprendre. Au contexte de l'espace, le Niger se situe en Afrique de l'Ouest, dans une zone où les problèmes de sécurité n'ont cessé de croître depuis l'intervention française en 2013 au Mali, opération Serval, transformée quelque temps plus tard en opération Barkhane, ayant pour objet l'ensemble de la région sahélienne. Dans le temps, depuis l'intervention, l'opération militaire française au Mali, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation sécuritaire, en dehors de quelques moments d'accalmie, a été plutôt en s'aggravant. Mais le problème que pose la crise dans le Sahel, c'est un problème à dimension économique, à dimension financière, à dimension sociale, religieuse, tribale. Est-ce qu'une seule réponse militaire peut apporter une réponse satisfaisante à une polycrise. Ma réponse est dans la question. Et l'opération Barkhane dans cette zone, pourrons-nous la maintenir très longtemps? Devrons-nous la supprimer, l'alléger, la renforcer? Nous entrons dans le domaine de la prévision. Et finalement, la France, qui est en première ligne, risque d'être la victime de cette situation. En priorité, nos militaires qui sont des cibles privilégiées, et maintenant les civils dans cette guerre asymétrique entre le fort et le faible, le fort à la puissance de feu, le faible à la connaissance du territoire, l'agilité et peut-être aussi la communication vis-à-vis des populations locales.
Oui, et Paul Dahan, alors dans le livre que vous avez récemment sorti aux éditions du CNRS, Prévoir le monde de demain, donc consacré aux prévisions, il y a un chapitre dédié à celle du monde du renseignement. Et l'auteur, il souligne que les hommes politiques se méfient généralement des services de renseignement. Pourquoi ?
Parce que souvent, les services de renseignement jouent les Cassandres. Ils leur rapportent des signaux faibles qui, au stade où ils sont rapportés, ne sont pas suffisamment audibles pour les décideurs pour entraîner une anticipation, une transformation des signaux faibles en signaux forts et une préparation à cette situation qui pourrait dégénérer.
Il y a trop d'incertitudes encore et il ne s'est rien passé alors qu'il faudrait peut-être déjà agir, c'est ça un peu l'idée.
C'est exactement cela, c'est-à-dire peut-être pas agir mais se préparer à agir dans l'hypothèse où les signaux faibles se transformeraient en signaux forts.
Et donc, c'est aussi un monde où un politique avec un contrat social avec des citoyens se retrouve confronté à un univers qui joue aussi avec la légalité, ce qu'on appelle généralement les espions, les services secrets. Ça concourt à la méfiance ?
Non, je crois que les relations entre le politique et le monde, la communauté du renseignement se sont pacifiés, en particulier depuis le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, qui définit une fonction stratégique dans son chapitre 8, qui est la fonction de connaissance et d'anticipation, mot, concept qui cache celui de renseignement. Donc, les dirigeants considère que le renseignement est une fonction stratégique, mais dans le flot de l'actualité, les signaux envoyés par les services de renseignement sont souvent des signaux négatifs et on préfère attendre que ces signaux se transforment en des signaux plus inquiétants. C'est le problème de la hiérarchisation des priorités dans la conduite d'un État.
Mais le problème du système de santé au Liban est...
In a new interview today, he had already called Kamala Harris...
It's about building this country back better.
She was a disaster. She's going to be a disaster, I think, for their economy.
7 jours dans le monde.
On commence avec les États-Unis. Cette semaine, Joe Biden, candidat du Parti démocrate à la Maison-Blanche pour les prochaines élections présidentielles prévues en novembre, a choisi sa colistière. C'est Kamala Harris. Anne Corpé est à Washington pour RFI.
De mère indienne et de père jamaïcain, Kamala Harris mêle des origines asiatiques et caraïbiennes. C'est une femme de couleur, comme on dit ici aux États-Unis. Elle est relativement jeune. Elle a 55 ans, ce qui est important vu les 77 ans de Joe Biden. Ancienne procureure de Californie, elle avait brillé lors du premier débat des primaires démocrates en juin l'année dernière et avait affronté Joe Biden avec fougue sur la question des discriminations raciales. Dans le tweet qui annonce son choix, le candidat démocrate la décrit d'ailleurs comme une combattante sans peur. « Je connais Kamala Harris depuis longtemps, elle est plus que prête pour le job », a notamment tweeté l'ancien président Barack Obama. Les anciens candidats aux primaires ont quasiment tous salué un choix historique d'une femme noire, même si Kamala Harris ne suscite pas un énorme enthousiasme dans la communauté afro-américaine, qui lui reproche notamment de ne pas avoir poursuivi avec assez d'ardeur les policiers auteurs de bavures lorsqu'elle était procureure procureur de Californie. Donald Trump, lui, a posté une vidéo sur Twitter peu après l'annonce de sa désignation. Il la qualifie de radicale. Il a ensuite déclaré contre toute évidence qu'elle était la sénatrice la plus libérale du Congrès. Le président lui a déjà trouvé un surnom, Phony Kamala, qu'on peut traduire par Kamala Bidon.
Dimanche, en Biélorussie, comme prévu, pourrais-je dire, Alexandre Loukachenko, souvent considéré comme le dernier dictateur d'Europe, a remporté l'élection présidentielle. Il obtiendrait 80% des suffrages à l'issue d'un scrutin très probablement entaché de fraude massive. Depuis l'annonce de ces résultats, les autorités répriment très sévèrement le mouvement de contestation. Il y a déjà au moins 2 morts et quelques 6700 arrestations. Des ouvriers ont débrayé dans des usines hier et l'Union européenne lance un processus de sanctions. Mais les partisans de Loukachenko sont-ils prêts à le soutenir jusqu'au bout? Est-il fragilisé par cette contestation? Perrine Juhan a posé la question à la spécialiste de la Biélorussie, l'universitaire Anna Colin-Lebedev.
Ce qui pourrait faire tomber Loukachenko, c'est que les institutions le lâchent et les responsables dans les différentes institutions du pays considèrent qu'on est en fin de règne et qu'il faut lâcher ce leader-là. On est dans un contexte complètement inédit où beaucoup de choses dépendront de la réaction des élites locales à Minsk, mais aussi dans les régions, de la réaction des forces de l'ordre, de la loyauté que les forces de l'ordre pourront avoir vis-à-vis du pouvoir actuel. Les forces de l'ordre ne sont pas en très bon état en Biélorussie. Les policiers et les forces armées ne sont pas très nombreux. Ils vivent dans une situation économique plutôt difficile, ils sont plutôt précaires et mal payés par rapport au reste de la population. La loyauté n'est pas absolue. En même temps, il n'est pas certain que tous les représentants de forces de l'ordre se reconnaissent dans cette volonté de l'opposition de faire table rase du passé. Donc il y a vraiment un moment d'incertitude en ce moment, on ne peut rien prévoir. Et ça dépendra évidemment aussi de la réaction de la communauté internationale et de la visibilité que la Biélorussie aura.
Paul Dahan, ancien diplomate et co-auteur du livre « Prévoir le monde de demain » aux éditions du CNRS. Est-ce qu'avec ce qui se passe en Biélorussie, avec cette montée de la contestation, il y a comme un imprévu dans les prévisions diplomatiques et autres?
Je crois que vous avez entièrement raison et l'experte que vous avez interviewée le dit parfaitement bien. Lorsque la campagne électorale a été lancée au mois de mai, on a bien vu que le président Loukachenko voulait manier surtout le bâton vis-à-vis des opposants et il ne s'en est pas privé. Premier point. Deuxième point, la situation socio-économique est relativement difficile dans ce pays. Autre élément important, la gestion de la pandémie a été catastrophique. Et dernier point, la jeunesse semble moins vouloir s'accommoder de ce régime datant de l'ère soviétique et utilise tout les possibilités du monde numérique pour communiquer. Alors, aujourd'hui, que peut-on dire? Je crois que toutes les options sont sur la table. L'option, je dirais, la plus dure, qui est que le régime Loukachenko parvient à mater la répression et à se maintenir au pouvoir bon an mal an. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Nous l'avons vu avec les révolutions arabes où il y a eu un retour de bâton. Deuxième option qui répond à votre question de l'imprévu. Imprévu, il y a dans la mesure où s'est développée une forme de contestation. On parle des révolutions des femmes qui prennent le pouvoir à son propre jeu en apparaissant comme pacifiques et pacifistes. Et donc cette hypothèse d'une érosion lente du régime n'est pas à exclure. Donc il faut rester très vigilant en imaginant que tout est possible, le maintien du régime ou sa lente érosion et une éviction. Je crois que la communauté internationale a réagi de façon relativement satisfaisante, y compris par deux pays baltes et la Pologne, qui ont proposé une médiation qui n'a pas été totalement écartée, preuve que le régime ne se sent pas suffisamment solide sur ses bases.
On continue notre tour de l'actualité écoulée au Liban. Le coût des dégâts des explosions de la semaine dernière dépasserait les 15 milliards de dollars, selon le président de la République libanaise. Des ministres actuels et anciens vont être interrogés dans le cadre de l'enquête sur les causes de cette catastrophe et le FBI va se joindre aux enquêteurs libanais, a-t-on appris cette semaine. Selon l'OMS, près de la moitié des 55 hôpitaux de Beyrouth sont hors service suite aux explosions. L'aide internationale continue à arriver, mais en l'attendant, le système de santé de la ville traverse des heures difficiles et les médecins s'inquiètent de pénurie de matériel médical et de médicaments. Pierre-Olivier est sur place avec Julien Boileau.
Le petit hôpital Haroun, relativement épargné par l'explosion, a accueilli plusieurs centaines de blessés comme Mohamed, un Syrien de 47 ans.
J'ai reçu un coup dans le crâne, j'avais plusieurs contusions, la plus importante était dans les poumons. On les a traités en premier, puis on a opéré mon crâne.
On estime que plus de 6000 blessés ont dû être pris en charge par les hôpitaux, mais c'est maintenant la crainte d'une pénurie de médicaments qui inquiète Isleman Haroun, le président du syndicat des hôpitaux du Liban.
Nous avons des difficultés de fonctionnement à cause du manque de dispositifs médicaux, plus que des dégâts matériels dus à l'explosion.
Si le système peut encore tenir quelques semaines, l'avenir à plus long terme pose question. Antoine Zorbi, président de la Croix-Rouge libanaise.
Mais le problème donc du système de santé au Liban, et à juste titre les hôpitaux, c'est l'approvisionnement dans quelques mois, c'est ça. Donc on va pallier à ce problème-là d'ici une bonne semaine, et il faut prévoir quand même comment ça prévisionner après pour le reste des 3, 4, 6 mois.
Plusieurs tonnes de matériel médical ont été acheminées au Liban par l'aide internationale. L'armée devrait les distribuer d'ici une semaine.
Jeudi, Israël et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de normalisation qui n'a pas tardé à faire réagir les Palestiniens. En Cisjordanie, plus que la surprise ou l'incompréhension, c'est surtout la colère qui domine, comme nous le montre la correspondance d'Alice Froussard à Ramallah.
Si Ramallah ne semble pas plus agité que d'habitude, dans les cafés, les restaurants, la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis est le sujet de toutes les conversations, comme le confirme cette jeune Palestinienne peu après avoir appris la nouvelle.
Il y a évidemment de la colère, mais plus encore, on se sent trahi par les Émirats arabes unis. Même si on savait depuis longtemps qu'ils normalisaient leurs relations avec Israël peu à peu depuis des années. Ce n'est pas une surprise, mais on ne savait pas que ça se produirait maintenant. Les Palestiniens n'ont pas été consultés. Et tournent à leur avantage le fait de stopper l'annexion israélienne, ou du moins la suspendre. C'est une insulte à toute personne intelligente dans le monde arabe.
Sur les réseaux sociaux, les réactions s'enchaînent. Mahmoud Abbas, de son côté, a convoqué la direction de l'autorité palestinienne. C'est une trahison. Raison pour Jérusalem et la cause palestinienne, précise-t-il dans un communiqué. Il a convoqué immédiatement l'ambassadeur palestinien à Abu Dhabi. Pour le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, cette normalisation se fait aussi aux dépens des Palestiniens. Et même si les relations entre les factions ne sont pas au beau fixe, tous s'accordent cette fois sur le fait, je cite, que tous les pans de la société palestinienne s'unissent pour rejeter cet accord.
Paul Dahan, ancien diplomate, notre invité cette semaine et co-auteur du livre « Prévoir le monde de demain ». Du côté des États-Unis, certains signaux prévisionnels semblent à ce jour donner Joe Biden vainqueur de l'élection présidentielle américaine. Mais ce que soulignent les différents auteurs du livre « Prévoir donc le monde de demain », c'est qu'en matière de prévision, il ne faut écarter aucune hypothèse. Il faut toujours envisager l'irréel en fait.
Je crois que nous avons des expériences passées. La dernière élection présidentielle était joué d'avance. Hillary Clinton l'avait emporté. Le Brexit au Royaume-Uni ne devait pas l'emporter. Donc, ces expériences d'échecs de certains experts, je ne parle pas des prévisionnistes, doivent nous conduire à une retenue dans nos affirmations et il ne faut surtout pas sombrer dans le tropisme de la prophétie autoréalisatrice, à savoir que parce que nous ne voulons pas Donald Trump, il ne va pas être élu. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est quand même suffisamment contrastée pour que nous gardions une certaine distance, un certain recul par rapport à cette élection, et qu'à tout le moins, toutes les hypothèses soient sur la table, celle d'une élection de Joe Biden ou celle d'une réélection de Donald Trump.
Dans le monde de la prévision, vous dites que de toute façon, le pire est certain.
Ce doit être la doctrine inscrite en lettres d'or sur le bureau de tout prévisionniste. Parce que si l'on considère que ne doit se passer que ce qui est prévisible, le monde serait tellement simple et tellement agréable à vivre.
Mais pourquoi tous les auteurs que vous êtes, vous dites aussi que cette discipline demande beaucoup d'humilité ?
Parce que tout être humain manque de rationalité. Tout être humain à ses préjugés, ses idéologies qui peuvent le guider sur des chemins de traverse. Comment être sûr, certain, que vos préjugés ne vont pas l'emporter sur une analyse la plus objective des faits? Et comme le dit l'un des auteurs, l'ambassadeur Gabriel Robin, l'important c'est de donner un bon diagnostic. Le remède procède du diagnostic. Si le diagnostic que vous portez est faux, il y a de chances, beaucoup de chances, que le remède soit faux. Et donc, le rôle du prévisionniste, c'est un rôle de médecin qui ausculte un pays, qui ausculte une région, qui ausculte le monde, et qui essaie de dresser un bilan sanitaire de ce pays, de cette région, du monde, pour essayer de voir d'où viennent les spasmes, les signaux faibles, pour anticiper certaines aggravations et pour pouvoir les s'y préparer.
Une semaine d'actualité, Ludovic Dunot.
Sur le front de la pandémie de la Covid-19, la barre des 20 millions de cas recensés dans le monde a été franchie cette semaine et le chiffre des décès a lui aussi augmenté, atteignant plus de 750 000 victimes un peu partout. On redoute une deuxième vague importante. Au Sénégal, les autorités ont remis en place des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Face au relâchement des populations et à l'afflux des baigneurs sur le littoral de Dakar, elles ont annoncé l'interdiction de rassemblement sur les plages. Toute violation est punie d'une sanction. La correspondance de Théa Olivier à Dakar.
La longue plage de Yoff est pratiquement déserte ce dimanche, malgré la chaleur. Habitué de la plage, Abdoulaziz Dieng est affligé.
Les gens, ils veulent sortir et s'épanouir, venir avec leur famille et tout. C'est des milliers de personnes qui viennent sur la plage, surtout les week-ends. C'est vraiment la catastrophe. Hein.
À perte de vue, les restaurants sont vides, au grand désespoir de Simon Mangal, plagiste qui a l'habitude de louer nattes et parasols aux baigneurs.
Si tu venais ici le dimanche, il y avait plein de monde, on loue les cases, là on s'en sortirait. Mais actuellement, à cause du Covid-19, il n'y a personne, il n'y a plus de revenus, c'est vraiment dur.
Sur la plage, des gendarmes munis de masques patrouillent pour sortir les baigneurs de l'eau ou pour bloquer l'accès au littoral. Mais Ibrahima Fall, président des maîtres nageurs du Sénégal, aurait préféré un encadrement des visiteurs plutôt qu'une interdiction complète de l'accès aux plages.
L'État interdire aux gens de se baigner, pour moi, ce n'est pas une solution. La plage n'est pas un endroit fermé, elle est aérée. Si les gens ont senti chaud, ils vont venir vers les plages. Ils devraient les encadrer avec notre collaboration, bien sûr. Parce que nous avons l'habitude d'organiser des gens qui viennent ici à la plage, nous les sensibilisons.
Les rassemblements sont aussi interdits au niveau des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle.
À Madagascar, face au coronavirus, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours le week-end dernier. La grande île compte plus de 13 000 cas, dont quelques 150 décès. Pourtant, à la télévision, le chef de l'État a annoncé des mesures sanitaires allégées pour les deux prochaines semaines. Les habitants de la capitale, Antananarivo, qui sont retournés au confinement il y a un mois, reprennent leur quotidien peu à peu. De Madagascar, Laetitia Bezin.
Reprise du travail et réouverture des marchés jusqu'à 17h pour les Tananariviens. Mais les transports en commun et les voyages d'une province à une autre restent suspendus. L'Analamang, la région de la capitale, est dans une phase de stabilisation du nombre de cas de Covid-19, d'après le chef de l'État, Andra Zoeln, qui précise avoir entendu les difficultés d'une grande partie de la population qui vit au jour le jour.
Les Malgaches ne peuvent plus supporter le confinement économiquement et socialement. La lutte contre le coronavirus n'est pas encore terminée, mais on entrevoit une lueur d'espoir. Les scientifiques de l'Académie de médecine ont expliqué que vers la fin du mois d'août, il y aura de moins en moins de cas de contamination. Mais nous devons rester vigilants et continuer de respecter les gestes barrières.
Aucune date de réouverture des frontières n'a été annoncée, exception faite de Nosibé dans le nord-ouest du pays, une des îles les plus touristiques de Madagascar.
Tout le monde vit du tourisme à Nosibé et en ce moment, toute son économie s'effondre. Le 1er octobre, nous allons rouvrir l'île aux touristes étrangers. Mais nous allons mettre en place des mesures sanitaires. Tous les touristes qui viendront à Nosibé devront faire un test PCR. Ils devront avoir un billet retour et ne pourront pas aller dans une autre zone du pays.
Le président malgache est aussi revenu longuement sur les aides sociales apportées aux ménages les plus vulnérables. Il a notamment indiqué que 189 000 foyers de la capitale recevront une somme d'argent d'ici quelques jours pour compenser leurs pertes de revenus.
Et dans la course au vaccin contre le coronavirus, ce sont les Russes qui ont fait parler d'eux cette semaine. Vladimir Poutine a annoncé la mise au point de Spoutnik, un vaccin contre la Covid-19 qui dispose désormais d'une autorisation réglementaire, alors même que les dernières phases des essais cliniques se poursuivent. Nicolas Roca.
La phase 3 d'étude d'un vaccin doit permettre de s'assurer qu'il est efficace et qu'il ne présente pas d'effets secondaires. Pour autant, alors que cette phase doit débuter ce mercredi, la présidence russe s'est empressée de vanter son efficacité. Le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, attend des résultats concrets.
Je pense qu'il y a des annonces qui ont d'autres moteurs, comme être le premier sur le marché et puis être le premier à découvrir la potion magique. Hein. Ça a été une déclaration de presse, hein, ça n'a pas été... il a déclaré aussi qu'il avait vacciné sa fille, etc. Mais c'est pas très très sérieux. On attend une publication en urgence des résultats d'une phase 3 du vaccin russe pour pouvoir dire que ça y est, ils l'ont, il est efficace et il est... sécure.
Difficile de dire si les Russes ont réellement pris un avantage décisif dans cette course au vaccin. Frédéric Adnet.
La compétition est sévère, hein, puisque les Anglais ont annoncé le début de l'étude avec 30 000 patients. Les Chinois ont annoncé qu'ils faisaient cette étude sur les militaires chinois. Et les Américains ont aussi annoncé qu'ils commençaient la phase 3 de leur vaccin.
Les garanties présentées par les Russes restent pour l'instant limitées. Et les milliards de doses précommandées semblent davantage être un moyen de financement des coûteuses recherches qu'une réelle garantie d'efficacité.
En ce moment, en France, les indicateurs sur la propagation de l'épidémie sont mauvais. Le rebond inquiète les autorités. Mais Paul Dahan, revenons plus généralement à votre livre « Prévoir le monde de demain ». La prévision est une discipline forcément multidisciplinaire ?
Oui, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est complexe et la complexité de ce monde impose une complexité dans l'analyse qui fait appel à toutes les disciplines pour comprendre le monde, pour pouvoir l'anticiper, pour s'y préparer. Chaque conflit, chaque crise a des dimensions multiples. L'ignorer, c'est faire une impasse dangereuse, à mon sens.
Jours en France.
Des chaleurs caniculaires se sont abattues sur la France cette semaine et en plus, le pays vit aussi une période de sécheresse. 72 départements sont affectés par le manque d'eau et les trois quarts des 450 000 agriculteurs en France sont concernés selon l'un des syndicats du secteur. Même les départements du nord de la France où l'irrigation n'est pas une tradition en raison de son climat habituellement humide sont affectés par le manque de pluie. C'est un coup dur pour les éleveurs comme l'a constaté Pauline Glaise.
Prairies trop chaudes, trop sèches, les vaches laitières de Régis Desrumaux ont dû regagner les tables début juillet bien plus tôt que d'habitude.
Elles restent dans le bâtiment toute la journée, les mois d'hiver, les mois où il ne fait pas beau. Moi je me suis installé en 1995, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer mes vaches si tôt.
Quartier d'hiver et menu d'hiver.
Ben, vous voyez là ce que vous avez devant vous, il y a le maïs, l'enrubanage, le foin et je mets des pommes de terre aussi avec.
Les génies sont droits au grand air, leurs prairies offrant des zones d'ombre, mais pas plus d'herbes vertes et tendres à brouter.
Vous avez une prairie jaune. Vous voyez, on voit la terre. Et là, moi, je me pose même la question si cette herbe, quand il va pleuvoir, est-ce qu'elle va repartir ou est-ce qu'il va falloir ressemer nos prairies.
Le président de la FDSEA de l'Oise leur apporte tous les jours à manger. Dans le passé, cela était déjà arrivé, mais jamais dès le début de l'été. C'est donc plus de travail, mais ce n'est pas ce qui inquiète l'éleveur.
Je tape dans mes rations d'hiver. Bon, ben, ce qui est donné là, je ne l'aurai plus pour les mois de décembre, janvier, février, jusque mars. Donc il faudra certainement racheter de la nourriture. Sur mon exploitation, je suis autonome. Et cette année, vous voyez, là, j'ai commencé à me renseigner. C'est entre 1 000 et 1 500 euros de l'hectare. S'il faut en racheter 4 hectares, 5 hectares, donc c'est une perte assez importante.
Régis Desrumaux croise les doigts pour que les prix du lait et de la viande soient au rendez-vous. En attendant, il a semé des cultures intermédiaires pour tenter de se refaire une réserve pour l'hiver.
Allez, ma mère, dépêche. Allez, venez dire bonjour.
Oui, c'est vrai. Et il faut qu'elle dise bonjour. Elle est belle, en plus. Un beau troupeau. Paul Dahan, s'il y a bien un secteur où on peut se fier aux prévisions d'accord plutôt à court terme, c'est bien l'agriculture. Les prévisionnistes météo, notamment, ou ceux qui surveillent les nappes phréatiques ont maintenant des outils et des référentiels importants. Et de manière plus générale, sur l'environnement, les études et les prévisions ne manquent pas, et depuis longtemps.
Là, je crois que pour ceux qui seraient tentés d'instruire le procès de la prévision, la question de l'environnement vient leur apporter un démenti assez cinglant. Depuis les années 60, les prévisionnistes ont fait leur travail, c'est-à-dire des prévisions qui ont été confirmées par la réalité. Que ce soit les experts du GIEC, que ce soit toutes les conférences des partis, qu'il s'agisse des conférences de Rio, de Kyoto, le diagnostic était certain. Et aujourd'hui, nous avons l'impression de nous retrouver à la case départ. Les prévisionnistes répètent leurs prévisions et les dirigeants semblent sourds à leurs appels pour réformer le monde, bien que des décisions aient été prises. Mais pour l'instant, elles restent au niveau des promesses, des paroles généreuses. Nous attendons les actes pour savoir si notre génération va être à la hauteur des défis importants environnementaux qui sont devant elle.
On parle beaucoup ces temps-ci des neurosciences ou du fonctionnement du cerveau. Est-ce que finalement ce ne serait pas non plus inhérent au fonctionnement humain de ne pas réagir tant que la catastrophe n'est pas face à nos yeux ?
Je crois que vous avez entièrement raison. Il est toujours difficile de se placer dans la pire des hypothèses et il est tellement plus facile de se convaincre que le pire n'arrivera pas et que finalement les choses vont s'améliorer. C'est un débat aussi vieux que le monde et nous n'avons pas trouvé à ce stade de réponse à cette question lancinante.
Mais alors pourquoi on continue à faire des prévisions ?
Parce que je crois, face à un monde qui aujourd'hui est un monde en transition, donc porteur de tous les dangers, face à un monde qui est complexe, face à un monde des retours, le retour d'histoire, la géographie, un monde qui va de surprise en surprise, un monde qui redécouvre que l'histoire est tragique, eh bien nous avons besoin, dans ce monde-là, de nous reposer sur un remède qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, comprendre, pour anticiper et pour se préparer. Et c'est ce que permet la prévision en étudiant toute une série d'hypothèses, des plus certaines aux moins certaines, et c'est par cette démarche qui consiste à conjuguer l'expérience du passé, la réalité du présent et le futur pour, bien évidemment, éviter quoi ? Éviter d'être confronté au réel, ce fameux réel dont le psychanalyste Jacques Lacan disait « c'est quand on se cogne ». Et je crois que nous nous sommes cognés très souvent pour que l'on puisse se poser la question de la pertinence et de l'intérêt pour éviter à nouveau de ne pas se cogner.
Vous l'avez rappelé, Paul Dahan, les prévisions ou les prédictions sont là depuis la nuit des temps. Les rois, les empereurs, tout dirigeant dans les siècles passés aimaient aussi, par exemple, s'entourer d'astrologues quand on croyait que c'était l'astrologie qui allait nous prédire l'avenir. Mais finalement, est-ce que ces prévisions ne sont pas un remède contre notre angoisse ontologique de la mort, du futur, du demain ? Après tout, tant pis si on passe à l'action ou pas. L'important, c'est d'en discuter, d'avoir ces prévisions, parce qu'elles vont calmer nos angoisses.
L'homme a besoin d'une certaine prévisibilité sur ce qui va advenir demain. Et seule la prévision lui permet de lui donner une gamme d'options sur laquelle il doit penser. L'homme est-il toujours un roseau pensant pour se préparer à toutes les hypothèses, des plus optimistes aux plus pessimistes. Et la prévision est là pour l'aider à affronter les périls du lendemain dans les meilleures conditions et pour éviter qu'il ne soit surprise. On a l'habitude de dire qu'un diplomate surpris est un diplomate désarmé. On pourrait le dire de chaque être humain. Un être humain qui est surpris est un être humain désarmé et qui ne peut pas réagir du mieux du monde aux problèmes auxquels il est confronté.
Sept jours en Afrique.
En Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle, l'opposition monte au créneau uni. Plusieurs plateformes politiques proches de Henri Conan-Bédier, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Charles Blé Goudé se sont exprimés mercredi. D'un commun accord, ces mouvements ont exigé le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara et des changements profonds à la commission électorale indépendante ainsi que sur toute la nouvelle liste électorale qui vient d'être publiée. Sébastien Nemeth.
On dit de faire ça avant toute élection.
Maurice Kakou-Gikawe est clair, en l'état actuel des choses, le secrétaire exécutif du PDCI estime que le scrutin d'octobre ne peut pas se tenir. L'opposition accuse la CEI d'avoir manipulé la liste avec l'aide de l'agence Voodoo Communication. Daniel Aka parle également de milliers d'étrangers, de gens trop jeunes, trop vieux ou encore de doublons trouvés parmi les électeurs. Le chef du Parti ivoirien des travailleurs demande donc un changement radical à la CEI.
L'opposition exige la démission sans délai du président de la commission électorale en raison de son échec patent.
Le contentieux de la liste s'est achevée mardi. Selon Émilie Brottier, porte-parole de la CEI, les recours sont là pour ça. Des étrangers rajoutés, l'opposition doit en apporter la preuve, dit-il. Des morts, des nourrissons, des doublons, tout cela pourrait être dû à des erreurs d'écriture facilement rectifiables grâce au contentieux, précise Émilie Brottier. Le porte-parole dément également toute participation de Voodoo Communication à l'établissement de la liste électorale. Une autre source ajoute que la commission n'a même aucun contrat avec la société. Quant à la candidature d'Alassane Ouattara, elle pourrait déboucher sur une crise d'une gravité exceptionnelle, dit l'opposition. Daniel Bonny-Clavry de l'URD dénonce la dispersion des manifestations et avertit alors que des marches des deux camps doivent se tenir ce jeudi.
C'est un jeu dangereux. Alors nous disons que vraiment le gouvernement se ressaisisse parce que la paix sociale est entre ses mains.
Le pouvoir lui répète que la candidature du président est autorisée suite à l'adoption de la Constitution de 2016.
Des manifestations se sont déroulées aussi en cette fin de semaine en Côte d'Ivoire suite à la candidature d'Alassane Ouattara. Cette semaine, l'actualité africaine a encore été rythmée par l'anniversaire de l'indépendance de plusieurs pays du continent. Aujourd'hui, c'est le Congo qui célèbre cet événement. Jeudi 13 août, c'était la République centrafricaine qui célébrait les 60 ans de son indépendance. Ce genre d'anniversaire, c'est l'occasion aussi de se projeter dans l'avenir. La Centrafrique est dans une année électorale avec l'élection prochaine du président et des députés. Charlotte Cosset a recueilli les souhaits de jeunes centrafricains trentenaires qui souhaitent devenir parlementaires. Ils estiment qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans leur pays. Éducation, accès aux soins, infrastructures multiples. Et ils ont donné à Charlotte leur vision de ce que la jeunesse peut apporter de plus.
Les hommes politiques de ce jour crient tout le temps que la jeunesse est l'avenir. Ils nous utilisent, nous les jeunes, à les mettre au pouvoir et après les décisions qu'ils vont prendre ne tiennent pas compte de cette jeunesse dont ils disent toujours que nous sommes l'avenir. Je me suis engagé à servir d'exemple, à mettre en pratique le savoir que j'ai puisque j'ai eu de l'expérience. Je suis sorti plusieurs fois à l'extérieur du pays où j'ai acquis des connaissances, j'ai vu comment les choses se font ailleurs.
Je serais débuté, je mettrais déjà l'accent sur l'accès à l'information via la mise en place d'un projet de création d'une bibliothèque institutionnelle afin de permettre à quiconque le désire d'avoir accès aux textes de loi. Parce que sans avoir accès aux textes de loi, peu importe la bonne idée, peu importe le financement disponible, il est quasiment impossible à quiconque de faire quoi que ce soit dans ce pays.
Aujourd'hui, la jeunesse, elle est moins soumise à certaines tares qui existaient comme avant, à savoir le népotisme, le clanisme, l'ethnicisme. Aujourd'hui, les jeunes, nous n'avons pratiquement plus ces barrières. Et c'est cet apport positif que nous pouvons amener en bâtissant une nation vraiment unie, vraiment solidaire et patriotique.
RFI. Paul Dahan, vous qui avez dirigé le livre édité aux éditions du CNRS « Prévoir le monde de demain », quel est l'avenir de cette discipline de la prévision avec l'explosion des outils numériques, des data, des algorithmes ?
Je pense que l'avenir de la prévision est devant elle, dans la mesure où aujourd'hui les nouveaux instruments, les algorithmes, l'intelligence artificielle ne résoudront pas tous les problèmes, mais peuvent permettre un sursaut, une nouvelle étape dans la prise en compte de la prévision dans la décision politique. Et je le répète, la prévision ne doit pas se substituer à l'action politique. Elle est simplement un instrument mis à la disposition de nos dirigeants pour faire des choix qui soient les plus éclairés possible sur ce qu'est l'avenir.
Dans ce travail de prévision, il faut aussi savoir ne pas plaire aux commanditaires, parce que autrement, ce sont des prévisions biaisées. Il y a cette rigueur à avoir aussi.
Vous mettez là le doigt sur le problème le plus important de la prévision, c'est son indépendance. Au-delà du concept de prévision, il faut définir une prévision indépendante qui puisse être libre de dire, d'écrire ce qu'elle considère être le mieux dans l'analyse des faits objectifs.
Paul Dahan, si je vous ai bien compris aussi tout au long de cette émission, il faut de l'humilité pour faire des prévisions, mais aussi beaucoup d'audace. Vous nous l'avez dit, il faut oser penser contre soi-même, contre ses préjugés. Il faut aussi avoir beaucoup de rigueur pour explorer tout ce qu'on n'ose pas explorer. Il faut de l'imagination aussi pour essayer de décrire l'impensable, parce que, comme on le disait tout à l'heure, en prévision, le pire est certain. Donc il faut à la fois de l'humilité et de l'audace. C'est assez contradictoire.
Oui, c'est ce que j'essayais de résumer dans la conclusion de l'ouvrage en disant que la prévision impose des objectifs contradictoires. Travailler sur le court et le long terme, travailler sur le pensable et l'impensable. C'est ce qui fait peut-être tout l'intérêt de la prévision, parce qu'elle ramène à la nature humaine face à l'inconnu, à l'imprévu, comment la réflexion, comment l'éducation vous conduit à adopter la démarche qui convient à la situation. Je pense que c'est un problème qui dépasse largement le cadre de la prévision. C'est l'humilité de l'être humain face à tous les problèmes de la vie personnelle ou de la vie internationale.
En lisant le livre que vous avez dirigé, moi je peux aussi dire, pour conclure cette émission, que c'est aussi un petit manuel sur l'art de penser en homme libre, critique, avec son libre arbitre justement, avec tout ce qu'il faut, et vous nous l'avez expliqué, pour penser librement, contre soi-même, oser imaginer, avec tous ces éléments qu'il faut mettre en œuvre pour être un homme libre. Ça aussi, même si on s'intéresse pas réellement à la prévision, ça peut être un livre intéressant sur l'art de penser. Et puis il y a aussi beaucoup de citations dans votre livre. Moi, il y en a une que j'adore, parce que c'est sûrement la plus drôle. Elle vient de Pierre Dac. « Les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. » Merci d'avoir été avec nous, Paul Dahan, aujourd'hui. Le livre que vous avez dirigé, je le rappelle, a été publié par CNRS Éditions. Il s'appelle « Prévoir le monde de demain ». Passez un bon week-end.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité revient, bien sûr, samedi prochain. Bonne semaine à tous.